Bernanos a une phrase assez célèbre dans un essai, il écrit en 46, je crois, qui est assez prophétique, c'est la France contre les robots. Il dit qu'on ne comprend pas le monde moderne si on n'y voit pas une conjuration contre toute forme de vie intérieure. Je suis assez partisan de cette phrase-là. Ça ne se fait pas uniquement par le travail, comme je pouvais le dire, c'est aussi par un divertissement permanent. Nous avons des sollicitations continues et ça nous renvoie dans le monde et ça nous empêche ce pas de côté dont je parlais.
Podcast by Tendance Ouest.
Bonjour à tous et merci d'être fidèles au podcast Des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Nous allons nous entretenir aujourd'hui avec l'auteur d'un roman sur lequel plane l'ombre de géants comme Saint-Exupéry, Bernanos ou même Kessel. Les animaux y parlent et les bergers y font de la résistance. L'histoire, c'est celle d'Arnaud, un jeune berger dont le village s'industrialise sous l'influence du Grand Batave. Bonjour Édouard Bureau.
Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tout le monde.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre qui est votre deuxième roman après Le Lion sans crinière. Vous êtes un jeune écrivain. J'ai hésité en le présentant vraiment en deux mots à parler de roman initiatique. Est-ce que je me serais trompé ou est-ce qu'effectivement on peut dire que c'est un roman initiatique dans le sens roman d'apprentissage dans lequel on suit un héros et son cheminement?
Oui, merci beaucoup. En fait, c'est un qualificatif que j'aime bien parce que ça correspond à beaucoup de romans qui m'ont plu. Non seulement des personnages un peu archétypiques, mais surtout des âmes qui évoluent. C'est ça qui est le plus enrichissant, je trouve, dans un roman. Parce qu'évidemment, on se retrouve dans ces questionnements intérieurs, dans les doutes, les hésitations, les moments d'action que nous pouvons connaître. Merci beaucoup de donner ce qualificatif à ce roman.
Alors on a un héros, Arnaud, qui va défendre un mode de vie. Quel mode de vie défend-il, ce Arnaud, face au Grand Batave et à l'industrialisation de son village?
Oh, alors c'est un mode de vie qui peut paraître peut-être un petit peu sommaire et plus exactement, il ne défend peut-être pas un mode de vie matériel, mais un mode de vie intérieur. Il veut faire en sorte que le progrès qui est en train de s'avancer ne le coupe pas de la beauté, de la poésie, des chansons, de ses amitiés, de son amour également. Il essaie de garder un petit peu tout ce qui fait que la vie vaut d'être vécue finalement. Le sentiment d'appartenance à une terre, à un groupe d'amis, à la beauté aussi. Enfin, tout ça est tellement important qu'il veut absolument faire en sorte que ça se perpétue. Ça n'est pas un roman qui est résolument nostalgique sur la vie de la campagne et des montagnes, des Alpes. C'est plus un appel, un sursaut intérieur à ce que nous ne nous fassions pas complètement dévorer par le monde qui est en train de nous entourer et de nous abrutir. D'ailleurs, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit autour de moi, des bruits de moteur notamment, et ça appuiera bien mon propos, je pense.
Podcast by Tendance Ouest.
Dans la construction de votre roman, on passe d'abord beaucoup de temps avec votre personnage, vos personnages, d'ailleurs les quelques personnages principaux, et on n'arrive pas tout de suite à la confrontation avec cette modernité. Et j'imagine que c'est volontaire, c'est pour qu'on comprenne le contexte, qu'on comprenne le rythme aussi peut-être, parce que j'ai moi-même pris un certain temps à rentrer dans le rythme de votre roman, comme s'il fallait moi-même que je me mette au pas de ces bergers.
Oui, c'est un parti pris. Effectivement, toute la première partie est assez contemplative. Elle est assez calme et je voulais prendre le temps pour développer des personnages et puis développer, je l'espère chez le lecteur, un attachement à ces personnages, voir que leur vie est assez douce et assez belle. Et il va falloir un moment sortir un petit peu de cette temporalité sirupeuse pour rentrer un petit peu dans l'action, effectivement. Et ça, c'est la deuxième partie, et la troisième partie encore plus. C'était un parti pris de ma part. Et en même temps, je voulais laisser planer l'ombre de ce progrès longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais à la fin des chapitres, j'essaie d'évoquer une présence un peu lointaine qui est en train d'arriver dans l'environnement immédiat des personnages. Et cette ombre, c'est donc mon personnage un peu antagoniste, c'est le Grand Batave, et c'est une personnification de la révolution industrielle. Oui, il est en train d'apporter le progrès par petites touches. Il est en train de bouleverser tous les équilibres que je décrivais. Et toute la contemplation et tous les moments beaux et silencieux et doux des premières parties vont être un peu contrebalancés par la violence émergente du progrès qui est en train d'arriver.
Il est vite angoissant, ce personnage, Édouard Bureau, parce que il apporte d'abord une vie plus facile, ou en tout cas, on peut le lire ainsi. Et puis, si on creuse, et on voit évidemment que dans votre ouvrage, en tout cas, une forme de progrès ou de modernité rend très vite esclave.
Oui. Le propos du roman m'est venu de ma propre vie professionnelle, hein. J'ai commencé à l'écrire alors que j'étais dans un emploi qui était assez prenant, et je me suis rendu compte que je me coupais de tout ce qui pouvait me faire plaisir, voir mes amis, boire du vin, manger de bonnes choses, même aimer, enfin, toutes ces espèces d'évidences dans ma vie professionnelle me paraissait de plus en plus lointaine. Et c'est plongé dans ce bain-là que j'ai voulu me questionner et ensuite raconter cette histoire-là sur la façon dont le travail a pu être de plus en plus aliénant pour nous. C'est pas seulement... je pense pas que l'aliénation au travail soit seulement le fait d'un travail à la chaîne, c'est une occupation de l'esprit. On peut travailler dans le tertiaire et pourtant penser tellement à son travail qu'on oublie l'essentiel, à savoir ses proches et la vie intérieure.
C'est quoi la vie intérieure, Édouard Bureau ?
La vie intérieure, c'est une vie qui est parallèle à la vie matérielle, à la vie temporelle. Elle est non pas en opposition, mais c'est un pas de côté. Et c'est se sortir des contingences les plus quotidiennes. Nous avons des obligations naturelles et matérielles, mais de temps en temps, il faut prendre le temps de se mettre légèrement sur le bas-côté pour reprendre un peu son souffle. C'est ça la vie intérieure. Enfin, d'après moi. Et faire attention à tout ce qui ne subit pas tant que ça les outrages du temps. Et c'est la beauté, c'est l'amitié, c'est l'amour. Ce sont des sentiments qui sont devenus presque un peu bateaux, mais on dit qu'ils sont bateaux parce qu'on ne fait peut-être plus trop attention à eux. Donc il faut un peu tout reconquérir. Et donc c'est reconquérir sa vie intérieure et en l'arrachant à notre vie quotidienne, nous pourrons peut-être retrouver toutes ces vertus-là.
Selon vous, elle a menacé cette vie intérieure en 2021, au XXIe siècle ?
Oui. Alors, vous parliez de Bernanos au début de votre intervention. Bernanos a une phrase assez célèbre dans un essai qu'il écrit en 1946, je crois, qui est assez prophétique, c'est « La France contre les robots ». Il dit qu'on ne comprend pas le monde moderne si on n'y voit pas une conjuration contre toute forme de vie intérieure. Je suis assez partisan de cette phrase-là. Ça ne se fait pas uniquement par le travail, comme je pouvais le dire. C'est aussi par un divertissement permanent. Nous avons des sollicitations continues et ça nous renvoie dans le monde et ça nous empêche ce pas de côté dont je parlais.
Podcast by Tendance Ouest.
Vous avez une réflexion aussi dans votre roman et une approche intense, je trouve, de la notion de liberté. Parce qu'évidemment, au milieu de tout ça, nous sommes libres, vous, moi, ceux qui nous écoutent, libres de laisser de la place à notre vie intérieure ou non, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté? On peut dire que, oui, la liberté est centrale aussi dans votre roman La Grande Vallée.
Oui, oui, oui. Parce que la liberté, enfin bon, c'est l'éternelle phrase de Camus, c'est pouvoir dire non, mais c'est aussi pouvoir dire oui. C'est poser ses choix et le faire alors que nous avons des occupations permanentes, ça n'est pas vraiment faire acte de liberté, je pense. Le fait de rentrer chez soi et de machinalement faire quelque chose, que ce soit être sur son téléphone ou allumer la télé, c'est peut-être ne pas comprendre qu'à ce moment-là, on n'est pas libre. C'est un combat dans lequel je me place évidemment hein, et qui me reste à mener comme tout un chacun.
On n'a jamais eu autant d'entraves à notre liberté si on vous suit avec l'omniprésence d'Internet, la vitesse d'Internet, la notion du temps qui a été bouleversée en quelques années, la notion du cheminement de l'information qui a été bouleversée aussi, des sollicitations digitales, extérieures, par écran interposé qui sont multiples. Or effectivement, on peut considérer que c'est une sorte de combat que d'utiliser ces outils avec parcimonie, avec une certaine distance.
Oui, 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 tout à fait. Mais c'est un combat qui est parfois tellement difficile à mener. Et de temps en temps, il y a des espèces de fulgurances qui nous rappellent que ce sont des batailles à poursuivre chaque jour et qui sont finalement assez accessibles si on y prend un petit peu attention. Il y a une semaine, 2 semaines, j'étais dans le train et je voyais un couple qui était chacun sur son téléphone. Et à un moment, je crois que c'est dans le carré d'à côté, il y a un enfant qui a rigolé et les deux ont levé la tête de leur téléphone, ont souri en regardant l'enfant et ensuite se sont souri à nouveau en se regardant eux-mêmes. Et c'était, je pense, un petit peu de cette reconquête-là dont je parle. L'espace d'un instant, ils ont triomphé sur la machine. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment accessible.
Il y a plusieurs niveaux de lecture de votre roman, je trouve, Édouard Bureau. Peut-être vous allez me contredire. Je trouve qu'on peut le lire simplement, entre guillemets, comme une belle histoire, parce que l'histoire fonctionne, les personnages sont attachants, il y a du suspense, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, il y a des éléments forts, même météorologiques, il y a un contexte de paysage qui fonctionne. On peut s'arrêter à cette jolie histoire qui fonctionne bien. Et puis, au-delà de l'histoire, je trouve qu'il y a un second niveau de lecture où on peut lire ce roman comme un conte ou comme un roman initiatique, comme on le disait au début de cet entretien, et dans lequel tout fait sens, avec une réflexion, je trouve, profonde sur la contemplation, le travail, la vie en société, le temps, la modernité, la liberté, on en parlait à l'instant, le matérialisme, oui. Voire l'espérance. Alors peut-être vous nous direz un mot de cette notion d'espérance. Est-ce que, si j'évoque ces deux niveaux de lecture, c'est quelque chose qui a été présent chez vous dans le travail d'écriture, ou bien c'est hors sujet?
Oui, non, c'est merci de donner autant de profondeur à une histoire que je voulais raconter l'air de rien assez simplement. Je pense que les deux niveaux de lecture s'imbriquent un petit peu et se nourrissent se nourrissent l'un et l'autre. Mmh. Je me retrouve dans à peu près tout ce que vous dites, oui.
Vous évoquez le fait de sauver l'âme du lieu. C'est quoi pour vous l'âme d'un lieu? C'est quoi pour vous l'âme tout court?
Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la vie intérieure. Un synonyme de la vie intérieure, c'est la vie spirituelle. C'est la vie intime. Et cette vie spirituelle est par définition la vie de l'âme. L'âme est devenue une espèce de gros mot un peu tabou. Parce que prendre conscience de l'existence de notre âme suppose l'idée de la nourrir et de la faire grandir. Et donc, c'est nécessairement un acte de liberté assez fort. L'existence même d'une métaphysique est devenue presque un acte révolutionnaire aujourd'hui. Et une fois qu'on a acquis cette certitude de l'existence de notre âme et donc de sa défense et de sa floraison surtout, il faut effectivement se demander en quoi est-ce que ça consiste. C'est notre vécu, mais ce sont nos pensées et un lieu lui-même a tout ça. Il y a quelque chose de l'intemporalité dans un lieu et c'est ça qui fait l'âme. Je ne pense pas que ça tienne dans le cas d'un lieu, la présence d'habitants particuliers. Il y a par exemple le personnage de la vieille Dania qui pense à sa succession. Une âme ne peut se poursuivre que s'il y a cette transmission qui est faite. Et c'est ainsi que l'âme du lieu peut se perpétuer. Peut-être que l'âme du lieu, l'âme d'un lieu, se construit avec le passé et puis avec ce que nous voulons en faire ensuite. Il y a une sorte de mise en commun du projet. Tout le monde est un petit peu d'accord sur ce que ce lieu est. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de temporalité. Et je ne sais pas, je le ressens avec par exemple des lieux où j'aime aller en vacances, comme le Croisic. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer pourquoi ce lieu existe, mais il vit. Et si on peut sentir parfois quelques menaces, on est conscient tout de même au fond de nous que ça continuera à exister si nous avons la volonté de voir se poursuivre l'âme de ce lieu.
J'invite nos auditeurs à à dévorer, à rentrer dans ce roman, La Grande Vallée. C'est vraiment un roman qui nourrit, et c'est bien essentiel dans un livre. Avant de vous quitter, quand on a moins de 30 ans, comme vous, vous me disiez avant de cet entretien que vous ne viviez pas, ou peut-être pas encore, doit-on espérer, de votre plume. Quelle démarche on fait quand on écrit un livre comme celui-ci? Quelle démarche on fait quand on a le désir d'écrire?
Moi, ce que je veux avant tout, c'est raconter une histoire qui pourrait me toucher et que j'aimerais lire en tant que lecteur. En partant de ce point-là, j'écris. Et j'écris principalement des romans. Je ne pense pas vraiment à écrire autre chose, en tout cas demain. Après-demain, je ne sais pas. Mais j'ai ce goût-là de l'histoire. Et ensuite, c'est de ce goût-là que déroule l'écriture, que naît l'écriture et que se déroule l'histoire.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Édouard
Merci
Bureau.
Beaucoup.
Et lisez La Grande Vallée. C'est chez le Cherche Midi éditeur et la collection Cobra, c'est ça?
C'est ça, exactement. Parfait. Merci beaucoup et bonne lecture à tous.
Podcast by Tendance Ouest.